Merci beaucoup pour votre présentation. Merci pour cette invitation. J'ai revu peut-être le titre, mais bon, on reste de toute façon sur un thème commun. Donc, c'est le film de banlieue comme exercice de tolérance, une poétique pour une pensée, pour une commune pensée. Voilà. Donc, dans un texte publié en 2008, Le racisme comme distorsion de la perception, Axel Honneth s'intéresse aux comportements violents et xénophobes qui naissent de l'intolérance. Il analyse que ce dont manquent, et je le cite, les acteurs de violence, ce n'est pas tant de la vertu de tolérance, mais de cette attitude élémentaire de respect que nous devons pareillement à tous les êtres humains. Fin de citation. Cette attitude, précédant en quelque sorte la tolérance, il la nomme reconnaissance. Et effectivement, on en a parlé précédemment avec Christian Huguet. Et il explique en effet que la tolérance relève d'un respect, d'une forme quotidienne de reconnaissance de l'autre comme soi-même. Cette reconnaissance, selon lui, se décompose en deux strates. L'une cognitive et épistémique, où elle est, je le cite, une sorte d'estime portée à l'autre, estime liée de manière tout à fait élémentaire à son humanité, fin de citation. Et l'autre strate est performative, et elle résulte d'une, je le cite encore, capacité à faire intervenir certaines motivations de degré supérieur, dites second order, dès que nous reconnaissons un être humain dans la personne qui nous fait face. Et c'est ce niveau-ci de la reconnaissance, donc ce niveau, cette strate performative, qui est défaillant dans le cadre de comportements intolérants et violents. Il en conclut que c'est si et seulement si les acteurs de violence, je le cite à nouveau, peuvent faire d'eux-mêmes, sous la forme de pratiques partagées, l'expérience de ce que signifie le fait de se respecter mutuellement comme personne autonome, qu'ils pourront se départir de cette propension à la violence, entrer dans l'habitus où les ont plongés leurs propres expériences de socialisation. Fin de citation. Nous souhaitons donc étudier aujourd'hui l'hypothèse selon laquelle certains films pourraient constituer une expérience similaire aux pratiques partagées prônées par Axel Honneth. Ils seraient en quelque sorte appréhendés comme des exercices de perfectionnisme de la tolérance. À partir donc de quatre films de banlieue, nous proposons donc d'analyser comment le cinéma peut présenter une alternative à la dislocation de ce sentiment de reconnaissance, d'où jaillit l'intolérance. D'une part, il semble donner donc à voir une expérience autre des banlieues. Et je reprends ici en particulier la pensée de Danny Fourcault, pour qui le cinéma de banlieue permet de prendre conscience de représentations figées dans lesquelles les banlieues peuvent être enfermées, mais il développe aussi des représentations autres qui fissurent l'image archétypale que l'on peut en avoir. Et d'autre part, à partir des travaux de Stanley Cavell sur la comédie de remariage, on pourrait appréhender ces films comme une pratique du perfectionnisme moral, au sens émersonien du terme, en tant qu'expérimentation philosophique et donc éthique, mais aussi expérimentation sensible. Ainsi, les quatre films auxquels nous souhaitons nous intéresser reprennent et illustrent les trois âges de la banlieue française tels que les ont caractérisés les sociologues Michel Koukourev et Didier Lapéroni dans « Refaire la cité », un ouvrage qui a été publié en 2013. Les années 80, dans un premier temps, présentent, je les cite, « un monde désorganisé mais encore proche ». Fin de citation. Ce que met effectivement en évidence le théorème d'Archimède, de Mehdi Charef, qui est sorti donc en 1984, où les deux principaux protagonistes, Pat et Majid, sont deux jeunes donc d'un quartier sensible et ils zonent, ils vivent de petits larcins en cherchant donc à donner un sens à leur vie. L'intolérance ici porte essentiellement sur des actes racistes envers la population immigrée ou issue de l'immigration. Et si on reprend effectivement les travaux des sociologues, ces actes racistes sont marqués de façon très proéminente dans le cadre d'affrontements entre les forces de l'ordre et la population des banlieues. Puis, deuxième temps, donc, la décennie 90 révèle, je cite à nouveau Michel Koukourev et Didier Lapéroni, des territoires requalifiés par les trafics et les violences urbaines. Et la haine de Mathieu Kassovitz, en 1995, film qui ouvre officiellement donc le genre du film de banlieue rend compte de cette dérive à travers trois personnages, Vince, Hubert et Saïd, qui partagent donc la même genèse que les personnages du film précédent, ainsi qu'une diversité ethnique. On assiste donc durant cette période à une crispation des tensions et les gestes d'intolérance s'intensifient et se généralisent en portant sur des motifs qui ne se limitent plus au racisme. Enfin, dans les années 2000, la banlieue devient, selon Kokoreff et Lapéroni, un univers marqué par la fermeture et la sécession. L'esquive d'Abdelatif Kechiche en 2002 présente effectivement la banlieue comme un ghetto sensible. Elle prend les traits d'un théâtre urbain où se rejoue, à l'instar du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux au XVIIIe siècle, pièce qui est en l'occurrence répétée par un groupe de collégiens dans le film, donc se rejoue une critique donc des discriminations sociales. L'intolérance se manifeste alors par une marginalisation sociale d'autant plus marquée. Et nous ajoutons un quatrième temps donc à cette périodisation à partir des années 2010, où, comme l'analyse Mohamed Ali Hadraoui, une certaine frustration se politise et s'exprime, entre autres, je le cite, par un phénomène de socialisation utopique que propose le fondamentalisme salafiste. La désintégration donc de Philippe Faucon en 2012 reprend dans ce cadre-là l'itinéraire donc de trois jeunes provenant d'horizons très différents dans une banlieue lilloise. Tous trois sont en situation d'échec et ils s'acheminent donc vers une désaffiliation, au sens où l'entend Robert Castel, et une radicalisation de leurs sentiments religieux jusqu'à la perpétration d'un attentat. Si ces comportements déviants représentent un faible nombre, l'intolérance, en l'occurrence, dans un réflexe rétrocolonial, comme l'entend Gilles Kepel, tente à se cristalliser sur le fait religieux et l'appartenance à l'islam. Il va donc s'agir, dans le cadre de cette présentation, de s'intéresser aux procédés éthiques et esthétiques que déploient ces films pour faire valoir une attitude de tolérance. Tout d'abord, donc, l'intolérance, comme le suggérait l'analyse d'Axel Honneth, procède d'une perception de l'autre déshumanisée. Il s'agit d'un déni de reconnaissance de l'homme comme appartenant à la communauté humaine. Or, la banlieue, en tant qu'environnement urbain particulier, participe déjà en soi d'une forme de déshumanisation de l'homme par un effet conjugué de la dépersonnalisation dans la masse et d'un repli individualiste sur la sphère privée. Aussi, le contexte urbanistique de la banlieue favorise-t-il d'emblée, en quelque sorte, une désaffiliation sociale et un isolement politique. Il constitue un terrain propice à un discours intolérant, puisque les résidents des banlieues se perçoivent comme étant coupés du reste de la société, et donc différents, et ils sont perçus dans les représentations sociales comme des citoyens de seconde zone, sentiment qui s'accentue en l'occurrence dès les années 90. Or, les films de notre corpus tendent à déplacer les lignes. Ils ne cherchent pas tant à renverser les archétypes qu'à poser sur ces espaces périurbains un autre regard. Les critiques cinéma donc, assimilent souvent la banlieue à un personnage à part entière et Julien Neyert précise qu'en général, dans les films de banlieue, je le cite, « le personnage principal est symbolique et la tour ». Fin de citation. La ligne des tours est en quelque sorte effectivement esthétisée. Face à des plans fixes, en particulier dans l'esquive, où la cité est le décor d'une scène urbaine qui renvoie à une représentation trop connue, d'autres metteurs en scène font le choix d'une esthétisation qui ne va pas nécessairement dans le sens d'une esthétique futuriste, au contraire, et ils jouent davantage sur une mise en lumière. Le générique, par exemple, du Théoharem d'Archimède est éloquent à ce sujet. La caméra balaie de nuit une cité que l'on devine proche de Paris, et d'un plan rapproché sur une mère et son enfant, on passe à un élargissement du cadrage par la déambulation donc des personnages entre des tours plongées dans un éclairage blafard. Il se dégage donc de ces premières images une tension entre un environnement inquiétant, lié à l'obscurité, et la sérénité qu'inspire cette femme et son fils qui parcourent ces espaces en toute quiétude. La banlieue semble apprivoisée, et par les jeux de lumière et des effets de clair-obscur, elle paraît non pas humaine, ni même accueillante, mais telle un lieu où la vie est possible. La musique électronique très caractéristique des années 80, à la fois douce et lente, corrobore cette impression. Mathieu Kassovitz dans La haine s'inscrit aussi dans une forme d'esthétisation de la banlieue. À partir de plans fixes, il semble rechercher dans la construction des scènes un équilibre presque classique dans la répartition de l'espace. Aussi, plutôt que de penser la banlieue en termes de personnages, il semblerait plus pertinent de l'appréhender dans une dimension paysagère. Parler de paysage à propos de la banlieue, précise Aline Caillé, ou même de paysage urbain, comprendre comment ces territoires font paysage pour ceux qui les habitent, relève en ce sens d'une démarche pleinement esthétique à laquelle l'art, mais aussi l'urbanisme, donne forme. Fin de citation. Ainsi, tel ce plan fixe à la 57e minute de la désintégration, je suis désolée, on est un peu pris par le temps, alors malheureusement, vous n'avez pas les images. Donc, face à tel ce plan fixe donc de la désintégration où le jour se lève avec le chant des oiseaux sur une tour qui peu à peu s'éclaire, la banlieue redevient un lieu à habiter, c'est-à-dire un lieu éthique, par les mouvements de caméra, par des choix de lumière. Et dans les films donc, du corpus, la banlieue redevient un lieu possible, un lieu où vivre, ouvert à une communauté humaine. Et c'est en cela que la représentation des banlieues, dans une dimension paysagère, reconstruit une image sur laquelle il redevient possible d'établir un discours de tolérance. Mais cette dimension paysagère de la banlieue n'est qu'une étape vers une nouvelle représentation qui prend pleinement forme par la présence des personnages qui l'habitent, par un effet d'incarnation. Ce sont les hommes qui sont au cœur de ces dispositifs cinématographiques et qui réhumanisent la banlieue. Les personnages font de la banlieue un espace sensible. Les gros plans de visage réalisés par Abdelatif Kechiche dans L'Esquive, mais encore des personnages emblématiques comme celui de la mère d'Ali dans La désintégration, porté à la fois par la douceur et la pondération, replace l'homme au cœur de l'expérience des banlieues. La singularité de l'expérience rompt avec l'image archétypale des cités, représentation qui a été et qui est encore nourrie par les médias et la télé. Le dispositif de L'Esquive est le plus éloquent à ce sujet. Le paysage de la cité s'estompe et disparaît presque derrière des personnages hauts en couleur. Le film pourrait être perçu comme un vrombissement permanent tant les personnages sont caractérisés ou plus exactement incarnés par leurs paroles, par leurs gouailles. Kechiche fait entendre la banlieue plus qu'il ne donne à la voir. Et cette redondance de la parole réfute l'idée d'une déshumanisation du lieu. Le cinéaste dresse ainsi une cartographie sensible de la banlieue, telle, et je cite à nouveau Aline Caillé, telle une géographie vécue qui passe par une rencontre directe et sensible avec le monde. Néanmoins, cette prise de position portant sur l'élaboration d'une nouvelle représentation de la banlieue est associée dans un même mouvement, et c'est le deuxième temps de ma réflexion, à un travail de mise à distance de l'espace de la cité. Cette distanciation vise à mettre en place un processus critique, un travail réflexif pour le spectateur. Mettre en perspective l'intolérance vécue en banlieue avec d'autres types d'expériences permet en quelque sorte d'évaluer la situation, de mesurer le phénomène de discrimination. Cette distanciation peut relever par exemple dans La haine d'une mise en perspective avec un événement historique perçu lui aussi comme une expérience de vulnérabilité. La scène à laquelle nous nous référons est un huis clos intervenant à la 50e minute du film, c'est-à-dire vraiment au milieu, hein, en quelque sorte. Il en émane une impression d'incongruité. Et Mathieu Kassovitz joue sur ce malaise pour surprendre son spectateur. Elle se déroule donc dans des toilettes publiques, et de par le lieu et la mise en scène, on pourrait penser au théâtre de l'absurde. Se percute alors, en effet, dans ce lieu à la fois intime et public, deux expériences, celle de la banlieue et celle de la déportation. Les trois personnages principaux font alors face à des divergences de pensée et surgit tout d'un coup, tel un Deus ex machina, un petit personnage qui fait irruption dans ce lieu, tout comme son expérience fait irruption dans la vie des personnages. Alors, je regrette, mais c'est une scène qui fait 4 minutes, donc elle est un peu longue. Je vous la résume rapidement. Donc, les trois personnages principaux, Vince, Hubert et Saïd, sont en grande discussion. Et discussion qui porte vraiment sur la notion de haine et sur cette impression d'impuissance dans la situation générale des banlieues, où ils sont, enfin, l'impression à laquelle ils sont confrontés. Et surgit tout d'un coup, une porte s'ouvre dans les toilettes publiques et surgit un petit personnage qui est projeté radicalement dans leur discussion et qui rompt complètement. Oula, merci. Qui rompt avec le récit, et il va leur présenter son expérience de la déportation en Sibérie. Et donc les personnages restent sur une interrogation telle, quel est le sens de cette rencontre ? Ils n'y répondent pas et laissent le spectateur en proie au questionnement. En l'occurrence, l'incongruité de la sienne suscite une réflexion qui naît de l'écart entre ces deux expériences. La référence à l'expérience de vulnérabilité autre, en l'occurrence la déportation, déterritorialise l'expérience de la banlieue et permet de décloisonner ainsi non seulement l'expérience, mais plus largement le cadre épistémique de la réflexion sur cette expérience. Alors, je vais aller rapidement. Deuxième possibilité de déterritorialisation, c'est bien évidemment le rêve. Dans les films de banlieue, il y a toujours une approche du rêve ou d'un espace idéalisé. Et troisième cas, dans le cadre de notre corpus, évidemment, nous avons l'espace du théâtre qui va proposer un nouvel espace, une nouvelle hétérotopie en quelque sorte, un nouvel espace à la fois métaphorique et poétique, où on va pouvoir aborder l'expérience de la banlieue à travers le prisme de l'histoire, en quelque sorte, encore une fois, puisque le théâtre, ici en l'occurrence, le jeu de l'amour et du hasard, va renvoyer l'expérience de la discrimination en banlieue, en quelque sorte, à une expérience aussi de la discrimination, une expérience inégalitaire au XVIIIe siècle. Bien, et donc, dans un troisième temps, donc, ces films proposent une expérience éthico-esthétique qui donne à vivre une expérience des banlieues tout en modifiant notre perception initiale, dans un effet de recadrage de l'expérience. Ils tissent alors, comme le préconise Félix Guattari, je le cite, de nouveaux récits de recréation permanente du monde fondés sur une commune discipline éthico-esthétique, c'est-à-dire un processus continu de resingularisation. En replaçant l'expérience sensible au cœur du dispositif cinématographique, l'expérience des banlieues est resingularisée tout en accédant à un commun qui favorise un effet de reconnaissance. Ces quatre films parviennent donc à rendre une expérience éthico-esthétique du singulier pluriel qui, selon Jean-Luc Nancy, dévoile, je le cite, une forme et une sensibilité pour laquelle l'avec et l'ensemble précéderaient et fonderaient l'expérience singulière. Donc, je vais aller relativement vite. Tout d'abord, il est à noter donc l'ensemble de ces quatre films font le choix du réalisme. Et il est important de rapprocher ce choix esthétique du collectif en littérature qui fait la France pour une littérature de banlieue qui s'inscrit effectivement aussi dans le réel. Autre point important, les personnages, s'ils revêtent une identité très marquée et presque excessive dans certains cas, demeurent sans grande profondeur psychologique. Pat et Majid, par exemple, dans le théorème d'Archimède, incarnent une jeunesse de banlieue par leur style vestimentaire, par leur attitude, par leur langage, mais on échappe aux entrelacs de leur réflexivité. C'est pourquoi les personnages incarnent une présence humaine singulière, plus qu'une individualité psychologique. Ils présentent, en fait, ils rejoignent en quelque sorte la simplicité des personnages des contes qui les ramènent davantage à un genre humain, à une expérience universelle. Aussi ne peut-on s'attendre à une identification au personnage. Ils demeurent à distance. Dans La Désintégration, par exemple, on suit l'évolution des trois personnages qui se radicalisent et l'on perçoit l'embrigadement par un phénomène de compréhension incarnée, tel un conte réaliste où l'on se trouve à la fois dans une trame fictive et plongé dans une réalité, un environnement dont on ne peut nier le caractère authentique. On rejoint ici donc l'idée de fabulation que développe Deleuze dans l'image-temps, et je le cite, « La fabulation n'est pas un mythe impersonnel, mais n'est pas non plus une fiction personnelle. C'est une parole en acte, un acte de parole par lequel le personnage ne cesse de franchir la frontière qui séparait son affaire privée de la politique et produit donc lui-même des énoncés collectifs. » La haine échappe à cette esthétique du conte et le dispositif dont elle se rapproche serait plutôt celui d'une tragédie classique. Alors rapidement, la haine reprend donc la règle des trois unités, même si l'unité d'espace, de lieu, est un peu écornée. Les personnages, à nouveau, n'ont pas de profondeur psychologique, mais ils ont une noblesse de cœur. Ils ont donc une noblesse de cœur. Par exemple, Vince veut venger son ami Vince veut venger son ami. Hubert lui cherche à pacifier une cité qui est au bord du gouffre. Et enfin, Saïd incarne une forme de trublion. Ce qui est à noter, c'est que le caractère inéluctable de la tragédie est posé d'emblée, et on sait dès les premières images que l'histoire va mal se terminer. La métaphore de la chute, comme Incipit, confirme cette sensation. La référence implicite donc au code de la tragédie accentue le caractère déterministe des discriminations, mais cependant, le principe de la catharsis, prôné dans le cadre de la tragédie, laisse à penser que le film favorise une purgation des passions et donc une purgation de l'intolérance. Enfin, le véritable vecteur de cet exercice de la tolérance est à chercher dans l'usage de la langue que les différents metteurs en scène parviennent à mettre en place. La langue est plurielle, elle était au cœur au cœur des trois premiers films, et elle peut être appréhendée dans le cadre d'une éthique de la relation telle que Glissant la conçoit, en tâchant, je le cite, de frayer à travers la langue vers un langage qui ne peut être pas dans la logique interne de cette langue. C'est donc à la fois une langue simple, accessible à tous et diverse. Le verlan est évidemment repris par les metteurs en scène et il souligne cette dimension créative de l'usage de la langue. De même, par la langue, par l'échange de la parole, se résout les conflits et la tchatche de ces œuvres, de ces jeunes, si elle peut paraître violente ou agressive, par exemple dans la première scène de l'esquive, ou si elle peut paraître excessive et flagorneuse dans la haine, présente une alternative au conflit, sans vouloir l'étouffer ni le contraindre. Elle s'apparente donc en quelque sorte à la transe que Deleuze caractérise comme une transition et un passage ou un devenir. Donc ces quatre films, je conclue, ces quatre films mettent donc en évidence la possibilité de voir dans le cinéma une pratique de l'exercice de la tolérance dans la perspective du perfectionnisme émersonien. En effet, ils donnent à vivre une expérience esthétique qui permet de réexpérimenter le phénomène de la tolérance de façon sensible afin d'en tirer une expérience esthétique. C'est là la fonction éthopoétique de ces films qui transforment, je cite Foucault, la vérité en éthos. Ces expériences éthico-esthétiques élaborent et travaillent à une commune pensée de la tolérance fondée sur le principe de reliance tel que l'ont défini Marcel Boldebal et Edgar Morin comme capacité à faire lien, comme je les cite, partage des solitudes acceptées et des différences respectées. Cette commune pensée, pour prendre donc l'expression de Jean-Luc Nancy, vise à recréer un commun en partage. Elle est déjà l'ébauche d'une pensée éthique et politique, dans la mesure où, comme l'explique Rancière, la politique est d'abord l'inscription du commun dans le sensible. Ces quatre films constituent donc, dans le contexte de crise des banlieues, un acte politique. Cependant, ils œuvrent à un devenir en donnant à voir une réalité virtuelle qui s'engage dans un processus d'actualisation. En cela, ils font écho aux analyses de Deleuze sur la dimension politique du cinéma moderne. Je le cite, « S'il y avait un cinéma politique moderne, ce serait sur la base « le peuple n'existe plus ou pas encore, le peuple manque ». Le peuple qui manque est un devenir, il s'invente dans les bidonvilles et les camps ou bien dans les ghettos, dans de nouvelles conditions de lutte auxquelles un art nécessaire doit contribuer. » Je vous remercie.